مكانة عظيمة في الإسلام. أهل التفسير يقولون قد ذكرت الصلاة في القرآن الكريم أزيد من 200 مرة، وذكرت مقرونة مع الزكاة في 82 موضعا، والصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت فوق 7 سماوات ليلة الإسراء والمعراج. الصلاة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين المسلم والشرك والكفر ترك الصلاة، وفي حديث آخر قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين أو عمود الدين كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان يهتم بأمر الصلاة، فالصلاة أمرها عظيم في شرع الإسلام. الإنسان ليس المهم فقط أن يصلي، لأن الإنسان إذا صلى له حالان، الحالة الأولى تسمى صلاة الإبراء، الحالة الثانية تسمى صلاة الإجزاء. بعض الناس يصلي كي يصلي، تبرأ ذمته، لا يهمه قبول عمله، يصلي. وبعض الناس هذه تسمى صلاة إبراء، إذا صليتها أنت لست مطالبا بإعادتها، أنت مصلي. وهناك صلاة تسمى صلاة الإجزاء، أن يصلي الإنسان صلاته صلاة كاملة تام بطهارتها وطهورها بخشوعها بتمامها، ويعلم إذا وقع له شيء في الصلاة أو نابه سهو ماذا يفعل، كيف يرقع صلاته. العلماء يقولون للسهو أو لسجود السهو 5 أحوال. الحالة الأولى الزيادة، الحالة الثانية النقصان، الحالة الثالثة الشك مع البناء، الحالة الرابعة الشك مع اليقين. الرابع الشك مع اليقين. الخامسة السهو في السنن، السهو في السنن. الحالة الأولى الزيادة، أذكر الدليل ثم أذكر ماذا نفعل. الزيادة، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة كما قال ذو اليدين إحدى صلوات العشي، هي الظهر أو العصر. مرة صلى ركعتين فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين، لم يكمل الأربع. لما استدار للناس قيل له يا رسول الله هل قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال الصلاة لم تقصر ولم أنسى. قيل له بلى قد نسيت. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد ركعتين دون يعني أن يكبر، مباشرة أتم ما فاته. ثم لما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين بعد السلام. في الزيادة الإنسان يسجد بعد السلام، سجدتين تكون إذا سلم بعد السلام. هنا ماذا زاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ زاد ماذا؟ تسليما في وسط الصلاة. نعم. النقصان يكون في الواجبات ليس في الأركان. الإنسان إذا ترك ركنا الركن لا يرقع، الركن لا يرقع، كالإنسان لا يكبر تكبيرة الإحرام أو لا يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة، وإذا وقع سهوا لا يعتد بتلك الركعة. أما في الواجبات، رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلى بأصحابه المغرب، فلما صلى ركعتين كما فعلنا قبل قليل، الرسول صلى الله عليه وسلم في الثانية لم يجلس لسجود للتشهد، بل قام مباشرة. يقول ابن أبي بحينة روى الحديث فسبحنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرجع. أن العلماء يقولوا إذا كان الإمام قائما يعني أثناء القيام وسبح له، له أن يرجع، ولكن إذا استام قائما إذا وقف لا يرجع. لما تشهد الرسول صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين قبل ماذا؟ أن يسلم. لماذا قبل السلام؟ لأنه ماذا؟ نقصان. إذن في الزيادة يكون السجود بعد السلام، وفي النقصان يكون ماذا؟ قبل السلام. هذه المسألتين يعني بسيطة. المسألة الثالثة والرابعة هي التي تحتاج إلى تدقيق، وهي الشك مع البناء والشك مع اليقين. الشك مع البناء هي الإنسان إذا لم يدري كم صلى، مثلا كان يصلي العشاء ثم سهى، هل صليت ركعتين أم 3 أم 4، لم يدري ماذا يفعل؟ تبني على ماذا؟ على الأقل. مثلا في صلاة الظهر كنت تصلي ثم نسيت، صليت اثنين أم ثلاثة كم تجعل؟ اثنين. صليت شككت، صليت ثلاثة أم أربعة كم صليت؟ ثلاثة. ترجع إلى الأقل، إذا كنت تشك بين الثلاثة والأربع ثلاثة، بين الثلاثة والركعتين ركعتين، بين الركعتين والركعة من كم؟ واحدة. كذلك في الطواف في حول الكعبة نفس الشيء، إنسان شك طاف طوافين أو ثلاث يجعل دائما ماذا؟ الأقل. ثم ماذا؟ قبل أن يسلم يسجد سجدتين لأنه شك وبنى على الأقل. ثم إذا كان شك مع اليقين، الشك مع اليقين، الإنسان قد يطرأ عليه شك، مثلا صلى المغرب شك هل صلى ركعتين أم ثلاث، ثم استيقن. أحيانا إنسان يتذكر يقول قرأت الفاتحة وقل أعوذ برب الفلق، ثم قرأت الفاتحة وقل أعوذ برب الناس، إذن أنا في الثالثة. هنا ماذا؟ يكمل على يقينه، على يبني كم استيقن، ولكن ما دام طرأ عليه شك ربما لم يكن متيقنا فعلا، ماذا يفعل؟ يسجد بعد السلام. الحالة الخامسة، حكم السجود فيها مستحب وليس بواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، وهو أن ينسى الإنسان ليس واجبا بل مستحبا. أعطيكم مثال، مثال إنسان ترك الصورة التي بعد الفاتحة، قرأ مثلا صورة المغرب، السنة أن تقرأ الفاتحة بعد الفاتحة تقرأ ماذا؟ صورة، ولكنه قرأ الفاتحة ولم يقرأ الصورة بعدها. الصورة بعدها مستحبة، لو كان أن الإنسان صلى بالفاتحة فقط في المغرب مثلا كما صلينا قبل قليل، فقط بالفاتحة صلاته مجزئة أو لا؟ تجزئ كاملة. لكن لو أن الإنسان لم يترك عمدا سهوا، هنا يجي يستحب له أن يسجد. إذا سهى في ترك سنة هذا السجود مستحب. بعض العلماء كالإمام الشوكاني قال ولو كان نقصانا يسجد بعد السلام لأنه مستحب، ولا يجوز إدخال شيء ليس من جنس الصلاة داخلها إلا بدليل. قال فهذا مستحب وليس لنا دليل، فالأصل في كل سجود مستحب أن يكون بعد السلام. وبعض العلماء قالوا نفس الشيء في الزيادة والنقصان، إذا سهى وأنقص سنة ماذا يفعل؟ يسجد قبل السلام، وإذا سهى وزاد سنة يسجد بعد السلام. كيف يسهو ويزيد سنة؟ كيف؟ مثال إنسان في المغرب جهر بالقراءة في الركعة الثالثة نسى، هنا ماذا يفعل؟ زيادة أو نقصان؟ زيادة، هنا يسجد بعد السلام. فيما يخص بعض الأمور، إذا جاء بعض الناس وصلوا خلف الإمام والإمام سهى والمأموم لم يسهى، هل يسجد الإمام وحده أم يسجد المأمومين معه؟ سؤال، الإمام لا في أن سهوا أسكو؟ نعم يسجدون معه، بارك الله فيك. والعكس غير صحيح، لو أن مأموما سهى هل والإمام لم يسجد للسهو، هل يجوز له أن يسجد للسهو وحده؟ لا. مسألة أخرى، لو أن إنسان وصل متأخرا ثم دخل في الصلاة مع الإمام ثم الإمام سجد، هل يسجد معه أو لا؟ نعم يسجد معه، يسجد وإن لم يشاركه في السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولكن العلماء قالوا لو أنه ربما يعني لما سلم الإمام هو قام ووقف استام واقفا ولم يرجع، له صلاته صحيحة، صلاته ماذا؟ صحيحة، بشرط أن يستتم واقفا. ولكن إذا سجد الإمام وكان جالسا قبل أن يقوم يسجد، لا يقول أنا لم أحضر السهو الذي سهى فيه الإمام، يعني أترك الشيخ الجمل يترجم بعد ذلك، إذا في أسئلة وتوضيحات أوضح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc avant de commencer bismillah faida ici. Donc je vous recommande bismillah pour ceux qui peuvent noter de noter ce chapitre là. Le chapitre que le cheikh ici Fathi hafidhahullah ta'ala traite dans cette assise fait partie des plus importants des chapitres, à savoir sujoud sahwi, la prosternation de distraction comme ils le traduisent. Donc ce chapitre est oublié par beaucoup de musulmans. Et la prière, l'ordre d'accomplir la prière, vient dans le Coran, plus de 200 endroits du Coran. Et elle a été évoquée avec Az-Zakat 82 fois. C'est-à-dire 82 fois. Non. 82 fois. Donc cette prière que nous accomplissons a été prescrite la nuit où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été élevé au ciel. Et cette prière, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet, entre l'homme et la mécréance, le délaissement de la prière. Et la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet, lorsqu'il dit, le pacte qui est entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui le délaisse, il a certes mécru. Et la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la prière est le pilier de la religion. Amoud ou Imad al-Din, comme a dit le cheikh, Fidahullah ta'ala. Donc il nous est obligatoire de lui donner cette importance que la religion lui a donnée. Et la prière des gens à l'heure actuelle peut se catégoriser en deux. Le premier, Ibra, juste le fait de l'avoir accompli, sans se donner de l'importance qu'il a au sein de la religion. Et deuxièmement, salat qu'on appelle ijza, celle qui consiste à prendre soin de sa prière avec ses conditions, avec ses piliers, avec ses obligations et ses concentrations. Ceci est demandé pour le musulman. Et le sujet de sahou, de prosternation, de distraction, est partagé en cinq grandes situations. Donc je recommande vivement les frères, Nasiha que je me donne à moi-même avant tout, de les recopier. Donc je répète, le cheikh il dit, Hafidahullah ta'ala, les sahwi khamsatu ahwal, c'est-à-dire la prosternation de distraction est partagée en quatre ou cinq, enfin cinq situations. La première situation, situation de rajout, az-ziyada. La deuxième, situation de nuqsan, la diminution. Le troisième, ash-shakk ma'al-bina. Donc, le doute, tout en se reposant sur quelque chose. Quatrième, le doute, mais toutefois en se reposant sur une certitude. On va expliquer tous ces points-là, bi'idhnillah. Et le cinquième, As-sahou fi sunan, le fait d'avoir délaissé les actes surrogatoires de la prière. Donc je répète, le premier, la situation de rajout. Deuxième, la situation de diminution. Le troisième, la situation de doute, tout en se reposant sur quelque chose. Et le quatrième, la situation du doute ou le doute, mais en se reposant sur une certitude. Et le cinquième, le fait d'oublier concernant, ou l'oubli concernant les actes surrogatoires. Est-ce que c'est bon, le frère? Donc je répète une troisième fois, bi'idhnillah. Le premier, situation de rajout. Deuxième, situation de diminution. Troisième, situation de doute tout en se reposant sur quelque chose. Quatrièmement, le doute tout en se reposant sur la certitude. Et le cinquième, le fait d'oublier un acte surrogatoire de la prière. Est-ce que c'est bon, les frères? Non. Donc, la première situation. Donc, le cheikh, à cette occasion, a cité le hadith de Dhiliyadaini, dans lequel le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, dans une des prières, que ce soit al-dhuhr al-asr, yani salat al-ashi, a délaissé deux raka'a, c'est-à-dire au bout du deuxième raka'a, il a fait le taslim. Puis, celui-ci, on lui a dit, ô messager d'Allah, est-ce que la prière a été diminuée ou tu aurais oublié? Donc il a dit, la prière n'a pas été diminuée et je n'ai pas oublié. Puis, on lui a réitéré yani, la demande et il l'a approuvé. Puis, il s'est mis debout à continuer la prière, puis l'a terminé avec le taslim. Puis s'est prosterné deux fois et puis a fait le taslim. Est-ce que c'est bon, le frère? Donc je répète. En résumé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir oublié deux rak'ah, est rentré dans la prière sans le takbir. Sans avoir fait le takbir, sans dire Allahu Akbar, puis continuer. Direct, il s'est mis debout et a complété la prière. Arrivé aux deux qui lui manquaient, il a fait assalamu alaikum, assalamu alaikum. Donc là, il a complété la prière qui lui manquait. Puis, il a fait deux sujoud de plus. On appelle ça sujoud du sahwi, la prosternation de distraction. Donc il l'a fait après le salam. Car ici, il a rajouté le taslim. Est-ce que c'est bon, les frères? Donc je répète, il a rajouté le taslim. Donc, Inch'Allah, laissez la situation finir, les frères, et notez les questions de côté, Inch'Allah, pour que vous puissiez le questionner le shir, et année après, bien
là. Je suis bien là, c'est parce qu'il a rajouté...
Il a rajouté le taslim. Okay. Il a rajouté la salutation, comme ils disent en French. Deuxième situation, la situation de diminution. La situation de diminution. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam priait la prière de l'Maghrib. Arrivé au deuxième rak'ah, celui-ci s'est levé sans faire le tashahhud, l'attestation. Sans faire le tashahhud. Donc, le rapporteur du hadith, il a dit sabbahna, c'est-à-dire on a dit subhanallah. On a dit subhanallah. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après s'être levé, il a terminé la prière. Et avant de faire le taslim, il a fait les deux prosternations. Donc ici, ça concerne les actes obligatoires de la prière. Ça ne concerne pas les piliers de la prière qu'on verra, bi'idhnillah ta'ala, par la suite du livre Shurut al-Salah de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab. Donc, les actes obligatoires, les frères, lorsqu'on l'oublie, celui-ci, on le répare en faisant deux prosternations avant le taslim. Lorsqu'on y a rajouté, on fait la prosternation après le taslim. Est-ce que c'est bon? Non. Troisième situation, le doute. Donc je répète la troisième situation. Le doute, tout en se reposant sur quelque chose. Donc lorsque la personne doute sur le nombre de raka'a qu'il a accompli, il se repose sur le moindre. Il se repose sur le moindre. Tout le monde sait ce qu'est le doute.
Doute, ça veut dire chèque. Il ne sait pas. Deux ou trois. Trois ou quatre. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait toujours le minimum. Le minimum. Okay.
Oui. نفس المعنى ولكن باللغة العربية عندنا الظن عندنا الشك وعندنا الوهم
مش الدوت لا دوت هي نفس
Donc le doute, mon frère, les frères, lorsque la personne hésite entre deux situations. Donc ici, le shir, il a donné l'exemple de deux ou trois rak'ah. Donc il se repose toujours sur le moindre. C'est ainsi dans le tawaf. Tout le monde sait ce que le tawaf. Donc le fait de tourner autour de l'Kaaba. Donc celui qui doute sur le nombre de tawaf qu'il a accompli, il se repose sur le moindre. Entre deux, trois, il prend deux. Entre deux, un, il prend un. Etc. Et avant qu'il fasse le taslim, il fait le sujoud sahwi par rapport à ce doute-là. Donc, lorsqu'il doute entre deux choses, il choisit le moindre. Et le sujoud, il le fait avant le taslim. Le sujoud, il le fait avant le taslim. Quatrième situation. Le doute, il y a une situation de doute, mais toutefois avoir une certitude après. Donc il a donné le shir l'exemple. Une personne prie, au départ il a un doute par rapport au moment de la prière. Mais dans l'avancement de la prière, il s'est rendu compte avec certitude qu'il en a fait trois en fait. Au départ, il avait un doute, mais la certitude lui a pris le dessus. Donc celui-là, il lui est obligatoire de se reposer sur la
sa certitude. Il est obligatoire, premièrement, de se reposer sur sa certitude. Donc, dans le cas où il hésite entre 2 et 3, il est sûr qu'il en a fait 3. Il se repose sur ça. Et lorsqu'il s'est reposé sur cette yani, certitude, il se prosterne, yani, le 2, celui de Sahou, il le fait après le taslim. Donc je répète ici, troisième situation dans laquelle il a un doute qu'il n'arrive pas à départager. Il prend le moindre. Et il se prosterne, il fait le 2 sujud de sahwi avant le taslim. Dans le troisième cas, enfin le quatrième cas, où il a réussi à se départager, de sorte qu'il a plus de certitude par rapport à telle situation. Donc dans ce cas-là, il fait le sujud et yani, après, ba'da, après avoir fini la prière. Est-ce que c'est bon? Puis il dit ici, une règle, cinquième situation, le fait de délaisser les actes surrogatoires. Et le cheikh, il a donné l'exemple à yani, de ce fait. Yani, la deuxième sourate après le Fatiha, elle est recommandée. Ce n'est pas une obligation. Donc celui qui le délaisse, il fait sujud sahwi et ceci est recommandé. Mais ce n'est pas une obligation. Donc il dit une règle ici. Lorsqu'on rajoute, on fait le sujud sahou après le taslim. Lorsqu'on diminue, on fait le sujud sahou avant le taslim. Je répète la règle, les frères, pour ceux qui ne l'ont pas noté. Lorsqu'on rajoute, sujud sahou se fait après le taslim. Lorsqu'on a enlevé, diminué, sujud sahou se fait avant le taslim. Puis, le cheikh Hafizahullah Ta'ala a rajouté des situations. La situation qui va confronter l'imam est le ma'moum, yani ceux qui président la prière et ceux qui prient derrière yani l'imam. Lorsque l'imam est tombé dans sahou, c'est-à-dire soit il a rajouté, diminué ou autre, et les ma'moum n'ont pas fait cette erreur, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils suivent l'imam dans ses actes. Ils suivent l'imam dans ses actes. Donc lorsqu'il se prosterne pour le sahou, il se prosterne pour le sahou. Il a récité le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit on a certes instauré l'imam pour être suivi. On a instauré l'imam pour qu'il soit suivi ou pour qu'il soit suivi. Et le contraire est interdit. C'est-à-dire si le ma'moumine, c'est-à-dire ceux qui prient derrière l'imam, se trompent, on ne fait pas sujud de sahou pour lui. C'est-à-dire l'imam, lui, il ne répare pas leur prière. Est-ce que c'est bon, les frères? Donc celui qui est arrivé avant l'erreur commise, après l'erreur, de l'imam, c'est-à-dire avant le sahou, il lui est recommandé de suivre l'imam dans sa réparation de la prière. Il lui est recommandé de suivre l'imam dans sa réparation de la prière. Concrètement, les frères, exemple, l'imam dans le troisième ou deuxième raka'a s'est trompé. Lui est arrivé au quatrième raka'a ou le troisième. Donc, lorsque l'imam finit la prière, il va réparer la prière. Donc, lui, il le suit dans ça. Il fait deux sujouds. Sauf dans le cas où il s'est déjà mis debout. Comme le cheikh l'a cité, Hafidhahullah Ta'ala, sauf dans le cas où il a entendu Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, il s'est mis debout précipitamment, d'un coup l'imam se prosterne. Dans ce cas-là, il ne revient pas dans le sujoud avec lui, mais il continue sa prière. Wallahu
a'lam. Il y a des halat, probablement, qui sont mathalan. إذا الإمام كان يصلي بالناس صلاة رباعية أربع ركعات وسهى وقام إلى الخامسة هل نقف معه أو لا نقف؟ هنا لا نقف لأن متابعة الإمام تجوز إلا إذا وقع في مبطل، متابعة الإمام واجبة إلا في مبطل مبطلات الصلاة. القيام إلى خامسة زيادة باطلة، فهنا نسبح للإمام حتى ماذا؟ يرجع. الأمر الثاني، لو كان الإمام أنت كنت تصلي بالناس وكنت متيقنا وسبح لك شخص، هل لا بد أن يعني مثلا كنت راكع ترفع أو تسجد، أو لا بد أن تصبر أن تتم صلاتك؟ كنت متيقن وسبح لك، هنا تتم حتى يسبح لك ثقتان كي تعلم أنك ماذا؟ أنك فعلا وقعت في سهو. إذا كنت لست متيقن هنا وسبح لك فهنا تصحح، ولكن إذا كنت متيقن وسبح لك فهنا إذا سبح لك ثقتان هنا تلغي يقينك. أمر آخر، إذا كان الإمام يقرأ وأخطأ في القراءة، في القراءة بعض الناس يصححون الإمام فقبل أن يصححوا يقولون سبحان الله. العلماء يقولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة إذا سهى الإمام في القراءة يفتحون عليه، لا يسبحون له في القراءة، لا تقول سبحان الله مباشرة، مثلا سهى في آية ترده تتلو عليه ما سهى دون أن تسبح. نعم.
ولين حتى يتضع المقال إن شاء الله. ولكن هنا الإمام يعني تصلي ثم قام في الخامسة، ولكن إذا كان هو يعني نسي الفاتحة في
هذا يعتبر خلاف الأصل، الأصل لا تقوم لا تقوم يسبح له حتى يرجع.
نعم نعم نعم. donc il dit le cheikh حفظه الله تعالى par la suite. Il y a d'autres situations qui est confronté à qui yani auquel peut être confronté yani l'imam. À savoir un imam prie les prières à 4 unités et celui-ci se lève au bout du 5e. Doit-on le suivre ou non? Donc la réponse est non, car ceci est considéré comme un rajout. Et deuxièmement, on dit at-tasbih, on lui fait remarquer qu'il a rajouté un 5e raka'a à travers le tasbih. هذا الرجال ولكن النساء. Non. Donc les hommes disent subhanallah et les femmes tapotent des mains. Je crois que ça se dit ça. Non. C'est fiqh. Deuxième situation que le cheikh il a cité par la suite. Un imam prie et on lui a fait remarquer un homme, yani un garçon a fait un tasbih qu'il s'est trompé. Doit-il écouter cet avis de cette seule personne ou doit-il compléter la fête? Non. Donc, non. Si l'imam, lui, a la certitude qu'il ne s'est pas trompé, il n'écoute pas celui-ci. Et dans le cas où deux personnes lui fait remarquer qu'il s'est trompé, il doit se reposer sur leurs avis. Donc deux personnes dignes de confiance. Troisième situation. L'imam s'est trompé dans sa récitation. Donc il dit, il fait partie des erreurs que les gens font lorsque l'imam se trompe dans une qira à récitation. Il dit subhanallah puis le corrige. Donc il dit dans les erreurs de récitation, comme c'est venu dans le hadith, An-Nabi Sansam dit lorsque l'imam se trompe, yani ouvrez-lui, yani en français, yani, voilà. C'est-à-dire donnez-lui une issue. C'est-à-dire, dis-lui le verset pour qu'il retrouve yani, la récitation correcte. Mais on ne le dit pas subhanallah. Subhanallah, c'est par rapport aux erreurs dans les gestes. Mais la correction directe de l'erreur concernant la récitation.
كذلك تنبيه إذا جاء الإنسان متأخر والإمام يصلي فأدرك مثلا ركعتين من الصلاة مثلا في المغرب، الآن صلينا المغرب، الإنسان أدرك مثلا ركعة، ما يأتي به بعد هذا هل يتم أو يقضي؟ نعم الإمام مالك يقول يقضي، نعم بارك الله فيك، ولكن الجمهور العلماء يقولوا يتم، وقد ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم مع الإمام فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما معنى ذلك؟ أنك ما أدركت مع الإمام تعد أول صلاتك. مثلا إنسان جاء في المغرب كما صلينا قبل قليل، جاء في الركعة الأخيرة سرجا، بعد ذلك ماذا يفعل؟ يعدها الأولى، إذا سلم الإمام يقوم فيصلي فيقرأ ركعة جهرا ثم يتشهد ثم يقوم ويصلي ركعة ماذا؟ سرجا، لأنه أدرك الركعة الأولى مع الإمام تعد أول صلاته. لو جاء مثلا في صلاة العشاء مثلا وأدرك مع الإمام فقط ركعة واحدة، ماذا يفعل؟ يصلي ركعة جهرا ثم يتشهد ثم يصلي ماذا؟ اثنين سرا. لو أدرك مثلا تلت ركعات مع الإمام ماذا يفعل؟ يصلي الأخيرة ماذا؟ سرا، خلافا للإمام مالك، لأن الإمام مالك يقول العكس، يقول فقضوا. إمام مالك يقول ما أدركت مع الإمام هو آخر صلاتك وتقضي، مثلا وصلت في المغرب في الركعة الأخيرة ماذا تفعل؟ تصلي ركعتين جهرا وتتشهد تشهد واحد وتسلم وهكذا. ولكن الصحيح من أقوال العلماء هو الإتمام، حقق ذلك الإمام الشوكاني، الإمام الصنعاني، الحافظ بن حجر العسقلاني يقولوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لفظ الحديث أتموا، وحديث مخرجه واحد، كل الروايات معناها أتموا. جاء في بعض الروايات أقضوا، ولكن أقضوا في اللغة تأتي بمعنى أتموا، وأتموا لا تأتي بمعنى أقضوا، لذلك الإنسان يتم في صلاته. أمر آخر، إذا سمع الإنسان الإقامة، بعض الناس إذا يعني دان من المسجد وسمع الإقامة يسرع، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم المسجد فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني الإنسان يكره له الجري، يأتي بماذا؟ بسكينة وطمئنان. أين
الله فيك. Donc il poursuit le cheikh en disant, Fidahullahu ta'ala, voici quelques remarques. Premièrement, lorsque la personne vient en retard, exemple la prière de l'Maghrib qu'on vient de prier, est-ce que celui-ci est considéré comme al-qada ou il doit le compléter? Donc les savants al-jumhur, la majorité des savants de l'islam, sont d'avis qu'il doit le compléter. Le sens de fal-yutimmu, l'yutim, par rapport au hadith de Nabi sallam, ce que vous rattrapez de la prière, complétez-le. C'est-à-dire que le premier raka'a ou les raka'a qu'il a attrapé l'imam dans cela, c'est considéré comme le premier ou le deuxième selon ce qu'il a raté. Donc exemple ici dans le Maghrib, la personne a raté les deux premiers raka'a. Alhamdoulilah. Non. Il a raté les deux premiers raka'a. Donc il est rentré avec l'imam dans le dernier raka'a. Donc, dans cet avis-là de l'Jumhur, ceci est considéré comme son premier raka'a. Donc, le deuxième raka'a, il va le lire à voix haute, et le troisième raka'a, il va le lire à voix basse. Sauf, c'est un avis contraire de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qu'il dit c'est le qada. C'est-à-dire que le premier raka'a qu'il a effectué ici, c'est considéré comme le dernier. C'est-à-dire, dans notre exemple ici, celui qui l'a récité à voix basse, ici qu'il a attrapé l'imam, le deuxième, il va le lire dans le sens inverse. Est-ce que c'est bon, les frères? On va le faire, le sens inverse. Je répète. Donc, Al-Khada, en fait, il fait l'axe. C'est-à-dire que ça, il le lit à voix basse. Et le dernier, il le dit à voix haute. Ça veut dire ça, c'est l'axe. C'est bon? C'est bon, les frères? Dans la vie de l'imam Malik, donc, Al-Qadha ici, donc le deux raka'a qui le reste par rapport à l'exemple qu'on suit ici, le deux derniers, il le dit à voix haute. Parce qu'il s'est considéré comme le premier, en fait. Il a inversé. C'est bon, les frères? Dans le premier, ça suit la chronologie. Donc, ce qu'il a raté, comme si ça vient en deuxième et troisième partie. Alors que dans celle-ci, il s'inverse. Donc le dernier devient le premier devient
Le deuxième.
En fait,
on recommence à zéro. Donc ça, la vie la plus juste, le cheikh il dit ici, c'est la vie de l'Jumhur. Ceci a été démontré par Shawkani et d'autres parmi les savants de l'islam, car le riwayat de ce hadith-là donne ce sens-là. Et une des riwayats qui est venue dans le sens de faqdou, c'est-à-dire faqdou ici, il a le sens de fa'atimmo. Donc le voilà. Alors que le mot atimmo, il ne donnera pas le sens de faqdou. Mais le faqdou, il rentre dans le sens de fa'atimmo. Mais fa'atimmo ne donne pas le sens de faqdou. Est-ce que c'est bon? Non, afwan. Le deuxième tanbih concernant la personne qui attend l'iqama. Donc un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité concernant le fait d'aller à la mosquée. Lorsque la personne va à la mosquée, il va avec le waqar, l'apaisement et la sakina, la sérénité. Donc il n'appartient pas à la personne de se précipiter, yani lorsque il vient à la mosquée, de sorte que celui-ci va l'essouffler.
Lorsque
l'Iqama
est cité, il vient à la mosquée.
Malish, peut-être c'est le khata, le zalat lisan.
Ahyanan qad tus'al insan idha akhta matalan ma lam yakhta' tabaqa mathalan madhhab Malik bil qada aw qama bi madhhab al jumhur. Ulama yaqulu marra Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardah ja'ahu rajulan ahaduhuma 'amila bil itmam wa athani bil qada. أما الذي أتم فقال له أصبت السنة والذي عمل بالقضاء قال لا شيء عليك قال له لم يقل له أعدها قال لا شيء عليك يعني كأنه بيّن أن الصحيح هو ماذا الإتمام ولكن من قام بالقضاء لا نقول له صلاتك باطلة أو أعدها يعني الإنسان يعني لا يتشدد حتى يعني لا تتوسع رقعة الخلاف وكان تشوف إنسان صلى ودار القضاء ما تقول له صلاتك باطلة لأنه هناك من العلماء كالإمام مالك من قال بهذا وابن مسعود صحابي لم يقل لمن فعل هذا صلاتك باطلة أو أعد مكانها أخرى بل قال له صلاتك صحيحة ولكن الأول الذي قال الإتمام قال لو أصبت السنة.
Donc il dit le cheikh, il se peut que la personne soit questionnée et qu'il ait appliqué un de ces deux cas qu'on vient de citer, c'est-à-dire soit il ait complété la prière dans la façon de l'imam Malik, rahimahullah, ou ta'ala, ou la façon de Al-Jumhur. Donc, Ibn Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala, il a vu cette situation. Donc, il a dit concernant celui qui a complété la prière dans la vie de Al-Jumhur, c'est-à-dire qu'il a suivi l'ordre chronologique de la prière, celui-ci, tu es tombé certes en conformité avec la sunna. Et concernant celui qui a appliqué la vie de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a dit, il n'y a rien pour toi. C'est-à-dire, tu n'as aucun péché par rapport à ceci. Donc, il n'appartient pas à la personne qui voit un de ces actes-là être accompli de dire que ta prière n'est pas valide. Dans le deuxième cas, ta prière n'est pas valide. Donc, les deux cas sont rapportés et ce sahabi ne l'a pas rejeté ou ne l'a pas blâmé.
هذا سائل يقول ما هو الدليل على هذين الحالين الشك مع البناء والشك مع اليقين. الدليل هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ركعتين أو ثلاث فليطرح الشك وليبني على الأقل. النبي صلى الله عليه وسلم وكان حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الشك إلى أحدكم فليبني على مستيقن. فصل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشك مع البناء. إنسان إذا لم يعرف كم شك ركعتين أو ثلاث أو اثنان أو واحدة هنا يبني على ماذا على الأقل. وإذا كان عنده يقين يبني على مستيقن. ففي الحالة الأولى يسجد قبل السلام وفي الحالة الثانية يسجد ماذا بعد السلام. مع العلم معاشر الأحباب، الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن مسعود، لماذا كان يسهو في صلاته؟ لماذا؟ كي يشرع لنا أحكام سجود السهو. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سهى أول مرة قال عبد الله بن مسعود قال للصحابة: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. تخيلوا لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسهى ولم يبين لنا أحكام سجود السهو، كيف نفعل ونحن بشر نسهى؟ كيف نفعل إذا وقعنا في سجود وقعنا في السهو في الصلاة؟ فهذه نعمة ورحمة ربانية، فالحمد لله.
Donc la question ici, donc on passe aux séances des questions, inshallah, qui étaient restantes tout à l'heure. Quel est le dalil, quelles sont les preuves qui montrent, yani là, ces deux situations, c'est-à-dire le doute avec el bina et le doute avec el yaqin, la certitude. Donc il dit le shaykh, d'après Abdullah, d'après Abu Saïd al-Khudri radiyallahu ta'ala an, le Nabi Sansam a dit: si l'un d'entre vous doute dans sa prière et qu'il ne sait pas combien de raka'a il a effectué, qu'il renvoie son doute et qu'il se repose sur le peu. Et dans un autre riwaya, il dit Nabi sallam par la suite qu'il renvoie ou qu'il se repose sur sa certitude. Sur sa certitude. Non. Donc il délaisse le doute et il se repose sur le peu. Et dans l'autre, qu'il délaisse le doute et qu'il se repose sur sa certitude. Donc, dans le premier cas, on a dit le taslim, le sujoud sahw se fait avant le taslim. Et le deuxième cas, il se fait après le taslim. Et donc ici, une faïda que le shaykh a cité, hafidhahullahu ta'ala, donc la raison pour laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam tombait dans le sahw. Donc il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam tombait dans le sahw dans le but qu'Allah subhanahu légifère sujoud sahw par son biais. Car imaginez-vous un instant si ce prophète-là ne serait pas tombé dans ces situations. Comment aurions-nous donc corrigé nos prières si on tombe dans ces situations? Donc, il disait Abdullah ibn Mas'ud, en rapportant la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que celui-ci a dit lors des premiers moments où il est tombé dans As-Sahw, il dit: je ne suis qu'un être humain comme vous, j'oublie comme vous oubliez. Donc si j'oublie, rappelez-moi donc. Si j'oublie, rappelez-moi donc.
Le waswas, non mais. حكم لا شوف الوسواس مرض الإنسان لا يبني على الوسواس. الوسواس كيف يغلب، كيف يقهر؟ يكثر الإنسان من التعوذ ودائما لا يتبع الوسواس. مثلا أنت إذا توضأت وجاءك الشيطان وقال لك إنك لم تتوضأ فقل توضأت، إذا جاءك في الصلاة قال لك إنك ترائي أطل الصلاة، إذا جاءك وبدأ يوسوس لك كم صليت، فهنا يعني ثق في نفسك وتذكر، يعني الإنسان يتذكر قرأ الفاتحة سورة الناس، قرأ الفاتحة قل هو الله أحد، ويتم على ماذا؟ على اليقين. وهنا لا يسجد للسهو، لأنه لو سجد لسهو سوف يسجد في كل صلاة، وهذا عنده وسواس قهري. نعم.
Donc le frère pose la question concernant celui qui a énormément de chuchotement, يعني الوسواس. Donc il dit le cheikh, lui soit, il ne se repose pas sur ça. Donc lorsqu'il exemple dans le wudu, il a un doute et que le waswas lui vient, tu n'as pas fait les ablutions. Donc celui-ci dit oui, j'ai fait les ablutions. Dans le cas où il est dans la prière, donc tu as de l'ostentation, il est dans la prière, donc il continue sa prière, ne l'abandonne pas. Car s'il obéit à ce waswas, il va se prosterner dans chaque et à chaque fois. À chaque et à chaque fois.
Le frère, pour ceux qui posent les questions, écrivez un peu gros, mais une fois de l'écoute.
Doit-on suivre l'imam connu pour être sur la sunna dans tous ces mouvements de prière, de façon de prier? Donc je ne comprends pas la question ici. Est-ce que c'est un frère? C'est-à-dire
la façon dont l'imam prie, par exemple,
la personne qui prie de telle façon, mais quand il prie son âge,
que
l'autre derrière, il peut faire une autre façon.
Non,
le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, marratan, salla jalisan. فصلى الصحابة خلفه قيام فأشار إليهم في الصلاة أن يجلسوا ثم لما سلم قال لهم وقد التفت قد كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. علماء يقولون متابعة الإمام واجبة إلا في المبطل، إذا فعل شيئا يبطل الصلاة أو ليس من جنس الصلاة، مثلا الإمام كما نقول حرك يعني شعرك إيش يقولون خبش هنا لا تتابع الإمام، ولكن لو كان الإمام فعل أمرا فهنا تفعل. الشيخ الألباني كان لا يرى القبض بعد أن تقول سمع الله لمن حمده، ولكن كان يقول إذا ذهبت إلى الحجاز أقبض بعد ماذا؟ بعد الرفع، رغم أنه كان يقول هذا القبض كان يقول بدعة حجازية. العلماء يقولوا لو صليت خلف إمام ولكن ليس بدعي، إمام مجتهد لا يصلي بالقبض، القبض مستحب، هنا تقبض ولا لا تقبض؟ لا تقبض، لأن القبض مستحب ومتابعة الإمام واجبة. أيهما أولى، الواجب ولا المستحب؟ الواجب. نعم، هنا يخالف من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الإنسان ليس مجتهد، ولكن إذا كان مجتهد وحريص على السنة، ولكن مثلا تبع رواية مالك، رواية ابن القاسم عن مالك أنه روى أن الإمام مالك كان لا يقبض، رغم أنه سحنون يروي العكس يقول كان يقبض، فهنا لو من تبع رواية ابن القاسم له أن يصلي إذا صليت خلفه ألا تقبض.
Donc la question, je répète, Inch'Allah, doit-on suivre l'imam connu pour être sur la sunna dans tous ses mouvements de prière et en sa façon de prier? Donc le cheikh a cité le hadith de Nabi sallam, qu'un jour celui-ci priait assis et que les sahaba derrière lui prièrent debout. Donc il fait signe aux sahaba de s'asseoir dans leur prière. Donc il dit, il se peut que vous fassiez la même chose que Faris par rapport à leur roi. Lorsqu'ils s'essayent, lui et eux restent debout. Donc, le suivi de l'imam est une obligation, sauf dans les actes qui annulent la prière ou des actes qui sont en dehors de la prière. Donc, je répète, le suivi de l'imam est une chose obligatoire, sauf dans les actes qui annulent la prière ou les actes en dehors de la prière. Puis, le frère, il a précisé la question par rapport à ce qui a été posé. Admettons un imam préside la prière et celui-ci suit le madhab de l'imam Malik concernant le fait de délaisser le bras le long du corps. Délaissant le bras le long du corps. Donc, s'il prie derrière lui, il lui est permis de suivre l'imam dans cet acte-là, même si ce qui est rapporté de l'imam Malik à ce sujet dans les riwayat de Sahnoun contredit ça. Oui.
Il est permis ou il est obligé?
Permis, il est obligé, là.
Permis, ça
veut dire
obligatoire.
Fahimta? Mutaba'atu al-imam wajiba, wajiba. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, al-qiyam rukn, rukn, al-qiyam fi salah. Waqumu lillahi qanitin. Ma'a dhalik, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ماذا قال? Idha salla al-imam qa'idan أو جالسا فصلوا قعودا أجمعين. نعم.
نعم. Donc ici précision. بجزيك mon frère. Donc permis. Donc le hukm on a déjà vu auparavant, c'est obligatoire. Donc puis le cheikh il a cité un exemple ici avant d'avoir cité celle-ci. C'est l'exemple de Cheikh Albani rahimahullah ta'ala. Qui lui voyait que le fait de reposer le bras sur la poitrine après s'être revenu de Rukou', c'est une innovation. Mais lorsqu'il priait Al-Hijaz, il disait, priez comme eux. C'est-à-dire le fait de poser la main ici. Car, en suivant le hadith qu'on a cité tout à l'heure, on a instauré l'imam pour qu'il soit suivi, pour être suivi. Non. قال هنا ما حكم donc je dis en français inchallah, quel jugement pour une personne qui délaisse les prières sur rogatoire par manque de temps ou par fainéantisme ou paresse ici. Donc ما حكم شخص يترك نعم تكاسلا او ليس لديه وقت.
نعم اجمع علماء الاسلام ان الانسان الذي يترك الصلاه جحودا جحودا يجحدها يقول الصلاة ليست فرض هذا كافر بالإجماع أما الذي يتركها تكاسلا وتهاونا فالإمام أحمد وإسحاق بن راهوي قال أنه كافر كفر أكبر خارج من الملة ليس له أحكام المسلمين إذا مات لا يغسل لا تصلى عليه الجنازة لا يدفن في مقبرة المسلمين الإمام مالك والشافعي والإمام أبو حنيفة قالوا لا ليس بكافر ولكنه ماذا؟ مسلم عاصي يعني واقع في كبيرة عظيمة لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ولكنه ليس بخارج من الملة ولكن في الشرع الإسلامي يستتاب ثلاث أيام يصلي عند أبي حنيفة إما أن يسجد ويضرب حتى يصلي عند الإمام مالك والشافعي يقتل بعد ثلاثة أيام إذا لم يصلي ولكن لا يقتل كفرا يقتل حدا معناها إذا قتل يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث وله أحكام المسلمين هذا في زمنهم لماذا؟ لأنه في زمن إمام مالك والشافعي لم يكن هناك أناس لا يصلون صلاة كالشهادتين كانت لا يوجد مسلم مسلم لا يصلي لم في زمنهم لم يكونوا يعرفون هذا قيل حتى جاء القرن السادس الهجري يعني بعد ست قرون من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ظهر قوم مسلمين مسلمون ولكن لا يصلون نسأل الله السلامة والعافية ترك الصلاة أمرها عظيم ولكن حكمه الشيخ الألباني عليه رحمة الله له رسالة في الصلاة وحكم تاركها رجح أنه ليس بكافر ليس بكافر والمقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلم والشرك والكفر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر هو الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبر المخرج من الملة كفر دون كفر كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله الرواتب نعم نعم يكره للإنسان إذا بدأ في عبادة عبادة في شرع في عبادة الله تعالى قال في القرآن ولا تبطلوا أعمالكم الإنسان إذا شرع في عبادة الأفضل أن لا ينتكس الانتكاس مذموم في القرآن ما معنى الانتكاس؟ معناه الإنسان يكون يصلي مثلا الرواتب ثم ينتكس يكون يصوم اثنين والخميس ثم ينتكس هذا مكروه في الشريعة الإسلامية الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن كفلان رجل كان يصلي الليل ثم تركه قال لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم تركه فالله عز وجل قال ويزيد الذين اهتدوا هدى الإنسان في دينه ماذا يبحث دائما على الزيادة لا يبحث ماذا على النقصان الانتكاس مذموم في شريعة الإسلام تفضل نعم نعم لا يحضرها ولا يشهدها ولا يترحم عليه وله أحكام إذا كان هذا من أقاربه لا يأخذ شيء من ميراثه نعم نعم
كالله فيه donc la question comme vous l'avez entendu je le répète inshallah quel jugement pour une personne qui délaisse les prières sur rogatoire par manque de temps ou par paresse donc le cheikh avant de répondre à cette question à détailler le délaissement de la prière obligatoire. Donc les savants de l'islam sont unanimes que celui qui délaisse la prière par juhud, c'est-à-dire par refus et le rejet de son obligation, celui-ci est un mécréant selon le consensus des savants de l'islam. C'est un mécréant selon le consensus des savants de l'islam. Mais concernant celui qui le délaisse par fainéantisme et paresse, celui-ci est une situation dans laquelle les savants ont divergé. L'imam Ahmad ainsi qu'Ishaq ibn Rawayhi, rahimahumullah ta'ala, sont d'avis que c'est un mécréant. On lui applique les rites ou les comportements à avoir avec mécréant. Donc celui-ci ne sera pas lavé, ne sera pas mis linceul, on ne priera pas sur lui, on n'invoque pas le Rahman en sa faveur, etc. Non. Donc on l'enterre pas dans les cimetières musulmans, etc. Wallahu al-musta'an. Et l'imam Malik, ainsi que Shafi'i et Abu Hanifa, sont d'avis que ce n'est pas un mécréant. Mais il est yani yustatab. Chez eux, ils le considèrent comme étant un fasik, yani un pervers. Donc celui-ci lui donne 3 jours de délai pour yani accomplir la prière. Et chez, après les 3 jours, chez l'imam Malik ainsi que l'imam Shafi'i, celui-ci est exécuté. Alors que chez l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il est emprisonné et non, il est châtié aussi. Donc, ils disent ces propos de leur temps, les frères, yani les sahaba, car de leur temps, ils ne connaissent pas le délaissement de la prière. Après les 6 siècles qui sont déroulés, c'est là où sont apparus des gens qui étaient musulmans, mais qui ne prient pas. Mais à l'époque des sahaba, ceci n'existait pas. La prière était au même statut que le shahadatayn. Était au même statut que le shahadatayn. Puis il a cité par la suite une risala concernant l'imam Albani rahimahullah ta'ala, qui a pris l'avis que celui-ci n'est pas un kafir. Puis a développé par rapport à l'adil là, yani dans ce kitab. Donc à revenir vers ce livre. Mais celui qui délaisse les prières sans rogatoire par feignantise, ceci est détestable. Ceci est détestable. Car comme on a cité, le fait de délaisser un acte surgatoire et de revenir de cet acte-là, c'est une chose blâmée par la religion. Comme l'a cité le hadith de Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhu, donc il lui disait, ne sois pas comme Fulan, il priait la nuit, puis il a délaissé. Ne sois pas comme Fulan, qui priait la nuit, puis l'a délaissé. Question, si nos parents sont dans une situation maladie et ils ont besoin de nous, doit-on faire la hijra ou rester dans le pays de mécréants? Et doit-on avoir l'autorisation des parents pour la hijra?
Les ulama awjabou al-hijra min biladi al-kufr ila biladi al-islam, min biladi al-ma'siya ila biladi al-ta'a, من بلاد البدعة إلى بلاد السنة. الإمام مالك عليه رحمة الله سئل عن الإقامة في بلاد الروافض الشيعة، قال لا، قال يهجر، لا ينبغي لمسلم أن يبقى في بلد يسب فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإقامة في بلاد الكفر، قال الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني أمرهم بالهجرة. الآن إذا كان إنسان والديه لم يسمح له بالهجرة، هل يطيعهما أو لا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في معصية الخالق. هنا الله أمرك ووالداك أمراك، فهنا ماذا تفعل؟ هذا أمر ليس مستحب. لو كان أمر استحباب لك أن تطيع والديك، ولكن أمر وجوب هنا تطيع الله عز وجل، ولو كان فيه إغضاء بهما، كأن والدك يقولان لك لا تصلي، هل تصلي أو لا تصلي؟ تصلي، وإن أغضبت والديك تصلي. نعم. أما إذا كان مريضين فهنا تحاول يعني تجاهدهما، تصبر معهما حتى يعني يشافيهما الله عز وجل فتهاجر، أو إذا توفاهما الله عز وجل كذلك ماذا؟ تهاجر إن قدرت إلى ذلك. سؤال قد يطرح، والإنسان إذا لم يقدر على الهجرة ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ نعم؟ لا، ماشي الصبر، عنده حل، ما هوش حل، حل نسبي يلزم له الصدق مع الله. ما هو؟ هل نجاوبكم عليه بعد؟
Donc la question ici.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Donc la question, je répète, inshallah ta'ala, si nos parents sont dans une situation en maladie, etc., ils ont besoin de nous, doit-on faire la hijra ou rester dans le pays de mécréants? Et doit-on avoir l'autorisation des parents pour la hijra? Donc il dit le cheikh, hafidhahullah ta'ala, les savants de l'islam ont rendu obligatoire le fait de délaisser un pays de mécréants pour se diriger vers un pays musulman. Le pays de péché vers un pays d'obéissance et le pays d'innovation vers le pays de la sunna. L'imam Malik rahimahullah ta'ala fut interrogé au sujet du fait de rester dans le pays des chiites, à Shia. Celui-ci dit non, il lui incombe de faire la hijra. Car il n'incombe pas à un musulman de rester dans un endroit dans lequel on insulte les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Et concernant le fait que les parents lui interdit, يعني le fait de faire la hijra, النبي صلى الله عليه وسلم dit à ce sujet, إنما الطاعة في المعروف. Certes, l'obéissance est dans le bien. Il n'y a pas d'obéissance aux créatures dans la désobéissance du Créateur تبارك وتعالى. Donc exemple, le parent interdit à la personne de prier, il ne lui appartient pas de les obéir dans ça, car c'est un péché vis-à-vis d'Allah subhanahu. Et la hijra est une obligation, ce n'est pas une chose recommandée. Donc toutefois, si ses parents sont malades, donc il fait en sorte que cela, yani, il soit yani, une aide pour eux, jusqu'à ce que cette maladie s'enlève ou... qu'Allah tabaraka wa ta'ala les fasse mourir pour que celui-ci fasse la hijra. Puis le chéri pose une question ici. Si la personne ne peut faire la hijra, que doit-il faire?
Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Oui. الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله الشيء الوحيد الذي أجاز فيه العلماء إنسان يبقى في بلاد الكفر ماذا؟ أن يدعو إلى الإسلام يدعو إلى الإسلام رسول الله عليه وسلم كانت عنده راية قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فباتوا كلهم أو أصبحوا كلهم يتمنى أن يكون ذلك الرجل فلما أصبحوا قال أين علي بن أبي طالب كان غائبا كان به رمض في عينيه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لقاه فشوفي من عينيه وأعطاه الراية قال اذهب إلى أولئك القوم الكافرين فانزل بساحتهم وادعهم إلى الإسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم إنسان إذا كان بقي في بلاد الكفر يولي داعية يدعو إلى الله كنقول داعية ليس معناه فقط إمام لا كل واحد فينا يقدر يدعي ماذا يدعي كل ما تكون فرصة تلقى إنسان نصراني أو يهودي أو ملحد تدعوه إلى الإسلام ماذا تعتقد كيف يعني هل تؤمن أو لا تؤمن فشيئا فشيء حتى أبسط شيء ماذا كما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ماذا تفعل؟ اقرأ عليه ماذا؟ القرآن الكريم بعض النصارى إذا سمعوا القرآن تدمع أعينهم كما قال الله عز وجل لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون يسمعون الحق فتدمع ماذا أعينهم
وإذا سمعوا ما أنزل إليهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما نعم نعرفه من حق الآن هذه الآية
شو؟
نعم Donc il dit ici la réponse, il y a une seule réponse, d'être un prédicateur, c'est-à-dire appelé à l'islam. Donc l'appel à l'islam ici les frères, ceci n'est pas restreint à celui qui doit être imam, ou celui qui est imam. Donc la moindre des choses, c'est de leur réciter le Coran. Car la plupart des chrétiens, il dit, ou les gens du livre, lorsqu'ils écoutent le Coran, yani de leurs yeux coule le larme, comme c'est venu dans l'ayah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ » Donc dans le sens rapproché du verset, « Lorsqu'ils entendent ce qui t'a été révélé, tu vois leurs yeux, de leurs yeux coulent les larmes de ce qu'ils connaissent comme vérité. » Et un Nabi Sansam dit dans le hadith, dans lequel celui-ci a dit « On donnera l'étendard » demain à un homme que Allah subhanahu aime et son messager l'aime et qu'il aime Allah et son messager. Donc, tous les sahabas sont restés éveillés et espéraient être cette personne. Puis la matinée est venue, un Nabi sansam dit « Où est Ali ibn Abi Talib ?» radiyallahu ta'ala an. Donc on lui dit « Il se plaint des mal qu'il a dans les yeux. » Donc celui-ci a fait demander qu'on le ramène puis a craché dans les yeux d'Ali radiyallahu ta'ala, celui-ci fut guéri. Donc il a dit, tiens, et va vers ce peuple-là et appelle-les vers l'islam. Et par Allah, si Allah guide par ton billet une seule personne, ceci est mieux pour toi que le fait de posséder une chamelle rousse.
هجرة تبدأ نعم إنسان إذا تعذ يعني ليست له كفاية من المال وجاءته الهجرة والحج هنا يبدأ بالهجرة أولا ثم بعد ذلك يحج الهجرة أولا لأن الحج قال الله عز وجل لمن استطاع إليه سبيلا أما الهجرة لم يقل لمن استطاع إليها سبيلا فالإنسان يهاجر أولا ثم يحج نعم فقط في صيغة الأذان أذكر بعض الناس كي أذن يعني لازم يتعلم صيغة ماذا كي تقول الله أكبر الله أكبر كان بعض الناس يقطعون يقولوا الله أكبر الله أكبر السنة ماذا تقول الله أكبر الله أكبر كاللفظتين في ماذا في نفس واحد ثم أشهد أن لا إنسان كان بعض الناس لا يتنبه يأتي بأداة التوكيد يقول أشهد أن السنة تقول أشهد أن لا وفي اللام كان مد أشهد أن لا إله إلا الله كذلك في إله مش تقول لا أشهد أن لا إله إله يعني مد حركتين إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم أشهد أن محمد أن كان الغنة أن محمدا كان غنة الغنة معناها الإنسان يخرج جنون من أنفه مقدار حركتين أشهد أن محمدا رسول الله في اللام كاين تفخيم رسول مش يقول رسول الله رسول الله الله ليس رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة بعض الناس يقولوا حي لا ما كاش ده حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هكذا الأذان وفي أربع صيغ فيه تقول أربع مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وفيه تقول الله أكبر الله أكبر بعد تقول مباشر أشهد أن لا إله إلا الله كذلك فيه الترجيع يعني يقول لي عندنا كم أربع صيغ شوف ترجيع مع تربيع التكبير والترجيع مع التثنية الترجيع ماذا؟ تقول مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني كي تدير الترجيع كاين أذان تثنية التكبير من غير ترجيع وتربيع التكبير من غير ترجيع وتثنية التكبير مع الترجيع وتربيع التكبير مع الترجيع. شحال تولي عندنا؟ أربع سيّة. كما في السلام بعض الناس يقول فقط السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أربع: السلام عليكم، تلقاء وجهه كان يميل قليلا، مش كما يقول بعض الناس السلام عليكم، السلام عليكم، تلقاء وجهه يميل قليلا بوجهه، أو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الرابعة يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أربع سياق في التسليم كلها ثابتة وجائزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان من باب السنة لا يقتصر على واحدة فقط، يعني يفعل كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الله نعم. Donc le frère a posé la question. Donc je possède quelques sommes. Dois-je faire la hijra ou al-hajj, le pèlerinage? Donc le cheikh il dit, dans une telle situation, la personne prévaut la hijra. Car Allah subhanahu dit concernant al-hajj: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Donc il appartient, il est obligatoire, ou Allah a rendu obligatoire aux gens le pèlerinage pour ceux qui ont la capacité. Et concernant le hajj, concernant la hijra, pardon, Allah subhanahu n'a pas cité ceci. Donc il appartient à la personne de faire la hijra par rapport à le hajj. Puis le cheikh cite concernant l'adhan. Concernant يعني الأذان. Donc الأذان, il dit il y a plusieurs parmi les erreurs qui est cité dans l'adhan. Et beaucoup de gens ne prennent pas ceci يعني en considération, c'est-à-dire par erreur de leur part ou oubli. Donc le fait de couper le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, alors que la sunna est venue de réciter le takbir deux fois de suite avec une seule respiration, c'est-à-dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, cette façon. Puis il a cité aussi au niveau de At-Tashahud, le fait de dire Ashhadu an la ilaha illallah, on entend certains dire Ashhadu anna la ilaha illallah. Donc tout ceci sont des erreurs. On dit Ashhadu an la, on appelle ça يعني الإخفاء. أشهد أن لا إله إلا الله. Le troisième concernant أشهد أن محمدا رسول الله. Certains disent أشهد أن. Donc ils mettent le l'alif زيادة. يعني المد sur le نون. أشهد أن لا إله إلا محمدا رسول الله. Certains disent Muhammadan Rasulallah. Donc tout ceci sont des erreurs. Donc on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar concernant le premier. Le deuxième, Ashhadu an la ilaha illallah. Le troisième, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça c'est le troisième. Puis il parlait du mas'ala de at-tarji'a. L'adhan, il y a plusieurs façons de le faire. Parmi ces façons-là, on a at-tarji'a. At-tarji'a, le fait de réitérer yani at-tashahud. C'est-à-dire, on fait le takbir quatre fois, puis arrivé à shahadan la ilaha illallah, on le dit pour soi. On dit shahadan la ilaha illallah, shahadan la ilaha illallah. Puis on le dit à haute voix. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Arrivé à shahadan Muhammad Rasulullah, on baisse la voix, on dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Puis on le dit à voix haute. Ça c'est. C'est vrai, mon frère. Inch'Allah. Donc ça, concernant le at-tarji'a. Puis il dit, toutes ces façons de faire l'adhan qu'on vient de citer,
sont rapportées de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il appartient à la personne d'appliquer ses sunan. D'appliquer ses sunan. Puis il a mis l'accent aussi concernant le at-taslim. Concernant le taslim, c'est-à-dire le fait de dire assalamu alaykum. Donc il y a plusieurs manières de le faire qui est rapporté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum est celui-ci. Mon frère, c'est pas jusque-là. C'est-à-dire à peine il tourne le visage du côté droit ou du côté gauche. C'est-à-dire il tourne un peu.
À droite.
Voilà, à droite. Yani, c'est pas comme ça. À peine comme ça. Yani, comme il a montré tout à l'heure, Hafidhahullah ta'ala. Donc la deuxième façon, c'est le fait de faire le taslim deux fois, et celui-ci, la personne se tourne complètement. Jusqu'à ce qu'on voit, yani le... Naam. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum.
Assalamu alaykum wa rahmatullah.
Wa rahmatullah. Naam. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum. Naam.
Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
Naam. La deuxième façon. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Yani les deux côtés.
Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.
Naam. Donc le dernier. Assalamu alaykum wa
rahmatullah.
Donc il dit le cheikh, khair inchallah. Donc il dit le cheikh, assalamu alaykum wa rahmatullah à droite, assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.
Assalamu
alaykum wa rahmatullah. Donc une erreur.
Tu peux dire salam alaykum tout seul.
Ne regarde pas mon frère.
Tu ne tournes
pas la tête. Salam alaykum. Je répète les frères parce que je vois les frères, ça y est. L'incha est venu, il faut la maison. Donc, at-taslim. Lorsqu'on le fait une fois, donc je répète, Inch'Allah, ce que le Cheikh a cité. Lorsque la personne fait le taslim une fois ou deux fois, lorsqu'il fait une fois, à peine il penche sa tête ou il tourne sa tête du côté droit. En disant assalamu alaykum, il s'arrête là, sans le tourner complètement. La deuxième manière, lorsqu'il fait le taslim deux fois, c'est-à-dire il tourne complètement sa tête du côté droit ou du côté gauche. Donc le sirah qu'il a cité tout à l'heure, le premier assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum. Le deuxième assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Le troisième, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaykum wa rahmatullah. Est-ce que c'est bon, le frère?
Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah قال خمس مسائل ودت ألا يقع فيها الخلاف من بينها هذه المسألة مسألة الأذان للمنفرد شيخ الألباني عليه رحمة الله قال أن المنفرد يؤذن موجوبا شيخ الألباني قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالأذان ومرة مالك بن الحويرث صحابي كان في سفر مع رجل قال له إذا جاء وقت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكباركما وذكر كذلك حديث الراعي الراعي يكون يعني في الفلات في الصحراء ومعه غنمه فإذا حان وقت الصلاة يؤذن ويصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من يسمع بآذانه ويشهد له ما بلغ له مدى صوته من حجر أو حيوان أو جن أو يشهدون له يوم القيامة على آذانه شيخ الألباني يقول كل مسلم يؤذن الإمام مالك أئمة الأربعة يقولوا لا يقولوا الأذان واجب في المسجد. أما على الإنسان في بيته وحده قلوا ليس واجب على المنفرد، واجب على الجماعة وليس واجب على المنفرد. نعم نعم، إقامة واجبة في الصلاة، في صلاة الفرض واجبة. الأذان هو المختلف فيه، الشيخ الألباني يرى بوجوبه، ولكن الأئمة الأربعة كلهم قالوا أنه مستحب وليس بواجب للمنفرد. أما الجماعات فواجب. الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر اثنان أمرهما أن يؤذن أحدهما ويأمهما أكبرهما. هنا الإمامة في السفر ليست كالإمامة في الحضر، الإمامة في السفر يأم الأكبر، أما في الحضر يأم القوم من أقرأهم لكتاب الله، فإن لم يوجد فأعلمهم بسنة رسول الله، فإن لم يوجد فأقدمهم هجرة، فإن لم يوجد فأكبرهم سنة.
الله فيكم. Donc le cheikh il dit ici par rapport à la question du frère concernant le fait de faire l'adhan tout en étant chez soi, yani seul. Donc il dit concernant cette mas'ala il y a un ikhtilaf. Et les quatre imams, donc c'est un résumé les frères inshallah ta'ala, les quatre imams Malik, Shafi, Abu Hanifa et Ahmed rahimahumullah ta'ala sont d'avis que c'est une obligation par rapport à la mosquée. C'est une obligation par rapport à la jama'a, yani la mosquée. Et elle est recommandée par rapport à l'individu seul. Elle est recommandée par l'individu, pour l'individu seul. Mais Cheikh Albani, rahimahullah ta'ala, le rend obligatoire pour la personne seule. Et il a cité...
Même la femme,
ceci lui est obligatoire. C'est-à-dire de faire l'adhan à elle seule. Et il se base sur le hadith de Malik ibn al-Huwayrith, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque la prière vient, que l'un d'entre vous appelle à la prière, et que celui d'entre vous qui est plus âgé préside la prière. Et le hadith de Ra'i, yani du berger, qui est seul dans plein air, et celui-ci fait l'adhan. Donc les créatures telles les hajars, les pierres, telles yani le djinn, l'ins, tout cela, témoigneront pour lui au mal qiyam.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله